France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse, loisirs, plaisirs et curiosités, le club du vendredi qui tente modestement d'enchanter votre vie quotidienne. Et à l'occasion du Festival du Livre de Paris qui débute ce matin au Grand Palais Éphémère, comment ranger sa bibliothèque? Et vous, vous les rangez comment vos livres, pour reprendre le titre du livre du journaliste Nicolas Carreau, l'un de nos invités ce matin. Il sera accompagné ce matin du journaliste Hubert Prolongeau et du libraire Antoine Bonnet qui vous diront comment ils s'y prennent et quels sont les trois livres qu'ils sauveraient en cas de péril. Je sais, c'est difficile. Et vous, comment rangez-vous vos livres et quels sont les livres que vous sauveriez coûte que coûte? Je vous attends au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 en laissant message et note vocale sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de Grand Bien vous fasse. La journaliste Christina Pelédouel vous proposera un livre d'Alberto Manguel qui tombe à pic ce matin, et Perla Servan-Schreiber vous proposera une délicieuse recette de saison facile à faire. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Alors quel est le menu de votre chronique philo?
Eh bien, puisqu'on parle de rangement de bibliothèque, c'est difficile de ranger sa bibliothèque sans classer ses livres, mais que faire de l'inclassable?
Bonjour Guy Metodicino.
Bonjour Ali.
Qui deviendra notre ami ce vendredi? Je ne le connaissais absolument pas.
Bah oui, justement, parce que alors lui, pour le coup, il est inclassable. Il s'appelait Boulard, mais ne l'avait pas, le Boulard.
Et il était notaire.
Et en plus, il était notaire. Oui, on se demande vraiment ce que ce mec vient foutre dans cette émission. Mais je vous assure que j'ai vraiment une bonne raison.
Et vous retrouverez la chronique avec la langue de Julie Neveu la semaine prochaine. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour, Perla Servan-Schreiber.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très. Bon. Trop contente d'être là.
Ben, on est content de vous avoir. On peut lire avec profit tout chocolat, mes 21 recettes de gâteaux et mousse à la martinière. Hein, ça tient dans une main, avec des recettes absolument merveilleuses. Mais ce matin, pas de recette de chocolat. Une recette de pâte hein, que vous nous proposerez tout à l'heure. Oui. Petit avant-goût.
C'est juste des pâtes et des légumes. Idéal.
Bon, ça promet. Bonjour Christina Pelédouel, journaliste indépendante et autrice de ces livres qui nous font du bien chez Marabout. Bon, ben un livre qui tombe à pic tout à l'heure. Hein.
Ben un livre obligatoire, hein, de l'art d'emballer ces livres, mais surtout de les déballer. Voilà, Alberto Manguel.
C'est un vrai travail, je suis très fier, je crois que c'est vraiment l'objet, le meuble que je préfère. Déjà parce qu'il a été créé, il n'a pas été acheté comme ça, et que ça a été long, et que ça a été un travail de fou, et quand il a eu terminé, et que je lui ai indiqué, voilà, fais-moi des cases un peu plus grandes, ce sera pour les livres d'art, des plus petites pour les livres de poche, des moyennes pour les BD, des plus larges, des plus hautes. Donc elle est un peu anarchique comme ça, cette bibliothèque, et en même temps, bon voilà, elle est anarchique aussi dans son rangement, hélas, vous n'avez pas les images. Mais...
Bon, il y a quelques beaux livres d'un côté, quelques BD de l'autre, mais sinon j'ai l'impression que c'est pas hyper rangé, Bruno.
Mais ouais, c'est mon drame, elle a été rangée, elle a été formidablement rangée, parce que je suis assez maniaque, et je me promets depuis 2-3 ans de tout reclasser. Mais c'est un travail de titan, parce que comme vous pouvez le voir, il y a une première rangée et une deuxième rangée, il y a une couche et une sous-couche derrière.
La bibliothèque de Bruno Solo, pas hyper rangée, dans l'émission La Voix et Livre de Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, animateur de cette émission sur Europe 1. Vous avez publié à la librairie Vuibert, et vous voulez ranger comment vos livres? Bonjour Hubert Prolongeau.
Bonjour Ali, comment allez-vous?
Ben ça va très bien, je suis ravi de vous avoir dans cette émission. Vous êtes journaliste, écrivain et essayiste, et vous avez publié chez Albin Michel l'an dernier, Le Dernier Chasseur, comment un Français s'est réinventé au Groenland. Bonjour Antoine Bonnet.
Bonjour.
Vous êtes libraire à Fontainebleau en Seine-et-Marne, et ça s'appelle la librairie Michel. Alors, Nicolas Carreau, François Morel écrit dans la belle préface de votre livre, et je le cite, qu'une bibliothèque, c'est un théâtre, une salle des fêtes, un music-hall. Une bibliothèque, c'est une carte du monde, mais à la géographie inopinée, l'Écosse côtoie la Suisse, l'Inde s'étend tout le long du canal du Midi. Une bibliothèque, c'est une cour de récréation. Une bibliothèque, c'est un enfer dans sa partie la plus inaccessible, un paradis dans les nuages de l'imaginaire et un purgatoire pour tous ces livres en souffrance que l'on se promet de lire un jour.
Immense François Morel, qui est une poésie à lui tout seul. Et quand j'avais visité sa bibliothèque, je me rappelle d'un moment très très beau, où il me dit, c'est pas classé par ordre alphabétique, mais Pléiade, faudrait quand même au moins pour les Pléiades. Et on entreprend de classer par ordre alphabétique. Donc Baudelaire, qui était à la toute fin, on le met plutôt au début et tout, il dit, ah bah il y a Jacques Prévert à côté de Boris Vian, ça va pas. Puis il s'arrête et il dit, ah oh, quand même, on a envie de les laisser ensemble, ces deux-là. Boris Vian et Jacques Prévert étaient voisins et très potes. Ouais. Et c'est vrai qu'une bibliothèque, c'est ça. C'est aussi des coïncidences et des proximités.
Hubert Prolongeau, une bibliothèque, c'est excitant. Je crois que chez vous, il y a 7000 à 10 000 livres dans votre bibliothèque de votre maison du Sud-Ouest. C'est excitant parce que c'est la promesse de lire un jour tous ces livres qu'on a désirés, qu'on a achetés et qu'on lira peut-être un jour.
Exactement. Et des fois, j'aime bien, je me mets devant, je regarde et je me dis, alors plus on vieillit, plus on se dit, j'aurai jamais le temps de finir. Mais je me dis, si jamais il y a quoi que ce soit, la Dordogne, par exemple, qui est au bout du jardin, qui déborde et qui nous isole, eh ben, je pourrai enfin attaquer tout ce qui reste.
Qu'est-ce que vous ressentez face à votre bibliothèque, Hubert Prolongeau?
Ça, à la fois l'excitation de tout ce qui reste à lire, le plaisir de ce qui est déjà lu, l'excitation de ce qui reste à lire, et puis le plaisir esthétique, parce que moi, je l'arrange par éditeur, par collection, donc j'aime avoir comme ça tous les livres qui se ressemblent les uns à côté des autres, et je suis furieux quand un éditeur comme Pavillon Poche récemment, ou Phébus avec Libretto, change la charte graphique d'un livre et me met en l'air comme ça, toute une étagère.
Je suis un peu d'accord avec vous, Hubert Prolongeau. Antoine Bonnet, je rappelle que vous êtes libraire.
Oui.
Qu'est-ce que vous ressentez face à votre bibliothèque
Moi, personnellement, ma bibliothèque, j'ai beaucoup, beaucoup de livres également, comme Hubert. Et effectivement, c'est vrai que quand je suis devant, je me dis que celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, celui-ci non plus, parce que c'est vrai que avant d'être libraire, je suis lecteur. Et j'adore acheter des livres, prendre des livres, découvrir des auteurs. Et c'est vrai que quand je suis devant, je me dis quel livre je vais choisir, quelle va être ma lecture du moment, quoi.
Nicolas Carreau, quand vous proposez à des personnalités de visiter leur bibliothèque, on vous a souvent répondu trop intime.
Oui, c'est intime une bibliothèque. Ouais. Mais d'ailleurs, quand on peut faire l'expérience soi-même, quand on est invité chez des gens, si on commence à regarder la bibliothèque, c'est ce que je fais moi en arrivant, il y a toujours un petit regard ou parfois, parce que c'est mon métier aussi, mais on me dit, non mais attention, il n'y a pas de la grande littérature. Je dis, mais c'est pas grave et tout, c'est très chouette. Et si on regarde attentivement, on va trouver des éléments biographiques de la personne chez qui on est dans sa bibliothèque. Ouais. J'avais visité celle de Dev, le chanteur.
C'est passionnant cette histoire.
Ouais, et je lui avais demandé, mais il n'y a pas de livre en néerlandais. Il me dit non, parce que quand j'ai quitté la Hollande, j'étais en bateau avec un copain et j'avais pris tous mes livres et le bateau a coulé et mes livres en néerlandais sont au fond de l'eau et donc quand je suis arrivé en France, j'ai racheté que des livres en français.
Et il a une bibliothèque assez extraordinaire, Dave.
Incroyable, Dave. J'y étais allé
quand
parce
je vous ai
que...
demandé en préparant cette émission quelle est la bibliothèque qui vous a le plus impressionné parmi toutes les personnalités que vous avez rencontrées, vous avez cité Dave.
Ben oui, parce que j'étais allé à cause de du côté de chez Swann, je me suis dit lis Proust. Je suis arrivé, il m'a dit non, Proust, j'aime pas du tout. En revanche, il faut que je vous parle de Paul Divoy. Je dis qui ? Il me dit Paul Divoy ! Il était aussi célèbre que Jules Verne, maintenant tout le monde l'a oublié. Moi j'ai des éditions originales, etc. Il me montre. Et puis ensuite, une bibliothèque de science-fiction. Moi j'aime bien la science-fiction. Mais il avait des trucs pointus, ardus, magnifiques, la bibliothèque de Dev.
Une bibliothèque, c'est intime, mais c'est également une démonstration sociale. Faut pas l'oublier.
Ah oui, on essaye de montrer en général plutôt les beaux livres, ou alors les livres qui comptent. Et il y a les livres, vous savez, qui sont de face, alors qui ont toujours une particularité. En général, si on demande, il y a une raison. Et puis il y a les livres qui ne sont pas là aussi, ça c'est important, parce que on les a prêtés, parce qu'on les donne beaucoup.
Et souvent, et vous l'écrivez dans votre livre, il faut aller au-delà de cette démonstration sociale, déplacer un livre, regarder derrière la première rangée.
Ah bah bien sûr, bien sûr. J'étais allé chez quelqu'un et je lui avais dit mais il y a des bibliothèques à l'étage. Elle m'avait dit oui mais c'est pas la peine d'y aller. On a autre chose à faire et tout. Puis quand j'y suis allé, il y avait des livres magnifiques de Bibliothèque Rose. Je lui dis c'est formidable. Elle dit oui mais là je les lis plus. Bien sûr que non, vous les lisez plus, mais c'est magnifique de les avoir et c'était très beau. Ça racontait toute son enfance et finalement on a gardé que ça tellement c'était beau.
Hubert Prolongeau, il y a des parties secrètes dans votre bibliothèque,
Non, la mienne, pas beaucoup, mais je me souviens que mon goût très fort pour le polar, la littérature noire, et sans doute né aussi du fait que dans la bibliothèque très grande aussi de mon père, il y avait un coin un peu honteux dans lequel il mettait des auteurs comme Simenon quand même, ce qui est assez curieux. Et j'aimais bien aller fouiller là-dedans, c'était derrière. Donc au début, il y avait les biographies officielles, livres de Raymond Tournou, qui était un essayiste. Ouais. Un historien à l'époque, et derrière, comme ça, il y avait quelques Chandler, Heyrich, et un certain nombre de Simenon, et j'aimais aller là parce que je sentais que c'était quand même ce qu'on n'avait pas trop le droit de regarder, donc c'est important, ouais, les enfers, mais moins pour ce qu'on cache que parce que c'est créateur de désir.
Christina.
Oui, Elsa Triolet, dans le moulin qu'elle habitait avec Aragon, avait un placard, et il est toujours là, un placard secret derrière lequel était cachée toute la série noire.
Évidemment, une bibliothèque en dit très long sur son propriétaire. Antoine Bonnet, vous êtes libraire, que raconte votre bibliothèque sur vous ?
Comme je l'ai dit, avant d'être libraire, je suis lecteur. Donc forcément, voilà, cette bibliothèque, elle reflète le lecteur que je suis. Donc voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est littérature. Donc j'ai beaucoup de Pléiades, j'ai beaucoup de Cahiers Rouges, j'ai beaucoup de Blanches de chez Gallimard. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me représente personnellement, quoi.
Et vous, Hubert Prolongeau, est-ce que ça représente le journaliste éclectique que vous êtes ?
Éclectique, oui, mais je suis assez bordélique dans la vie. Et curieusement, la bibliothèque est le seul endroit où je me révèle un maniaque absolu. Donc tout est bien rangé. Après, c'est par ordre alphabétique. Même des fois où je peaufine, ou quand j'ai un éditeur et puis j'ai un auteur avec plusieurs livres, je mets ce que j'ai lu avant ce que je n'ai pas lu, ce qui est un code que moi seul connais. Et quand ils sont numérotés et que j'ai pas lu dans l'ordre, les gens me disent « Ah, mais tu t'es trompé, là, il y a le numéro 7 qui est avant le numéro 4. » Et donc, c'est très, très, très étrange, parce qu'il n'y a que là, vraiment, que se révèle ce goût pour l'ordre que j'ai dédaigné le reste du temps.
Thibaut de Saint-Marie.
Ce qui me surprend, c'est que là, on parle de très très vaste bibliothèque, mais j'ai l'impression, enfin je ne sais pas, je n'ai pas documenté, mais qu'on a tous plus ou moins une bibliothèque, quels que soient les âges de la vie et quel que soit le goût pour la lecture. Et ce qui m'amuse aussi, c'est de trouver dans des bibliothèques très diverses, même parfois quand vous allez chez des amis en vacances ou vous louez une maison, il y a des livres, etc., c'est de trouver, il y a deux catégories de livres qu'on trouve souvent presque dans toutes les maisons, c'est le reste de livres prescrits à l'école. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des millions de Candide de Voltaire, par exemple.
Et de Père Goriot.
Et de Père Goriot. Et la deuxième chose, c'est le roman de vacances. C'est le voilà, et qu'on trouve, alors là aussi, dans des maisons qu'on peut louer, dans des maisons que les amis nous prêtent, ou chez des, voilà, très divers. Et donc, il y a aussi, comme ça, ces bibliothèques ordinaires, entre guillemets, qui n'ont l'air de rien, mais qui pour autant sont bien dans nos environnements proches.
Nicolas Caro.
Absolument, il y a souvent les livres d'enfance, et souvent le livre le plus précieux de la bibliothèque, c'est le poche, un peu déchiré, un peu abîmé, qu'on a lu quand on avait 14 ans et qui est dans un coin de la bibliothèque et qu'on garde.
Allez, place au petit plaisir de la semaine.
Au plaisir et bon amusement.
Merci. Merci.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, votre petit plaisir de la semaine, c'est une série documentaire du journaliste Michel Izard, disponible sur le site et l'appli TF1+, consacrée au chantier de Notre-Dame. 6 épisodes de 26 minutes. Le journaliste Michel Izard, que je considère comme un raconteur d'histoire hors pair. Moi, j'adore son sens du récit et sa voix. Et vous avez aimé cette série documentaire.
Oui, parce que ce qui est très étrange, c'est que l'histoire, on la connaît maintenant, l'histoire de l'incendie de Notre-Dame et de sa reconstruction. Mais effectivement, le sens du récit est vraiment formidable. Et à mesure que Notre-Dame est en train de se défaire de sa gangue d'échafaudage et que voilà, la flèche ressort, on commence à voir aussi la nouvelle charpente, eh bien, c'est passionnant de se voir redonner l'histoire de ce qu'il s'est passé. Mais il y a une petite particularité à ce documentaire. C'est le premier épisode qui s'intitule « Le jour d'avant ». Parce que Michel Izard et son équipe ont probablement tourné les dernières images de Notre-Dame et de la charpente de Notre-Dame 7 jours, je crois, avant l'incendie, puisqu'ils étaient en train de faire un reportage sur le chantier de rénovation. Et je vous assure que voir ces 27 minutes de premier épisode sur le chantier de rénovation, avec les interviews des gens qui sont tellement impliqués dans la rénovation et qui montrent la beauté de la charpente, qu'ils essayent de préserver, etc., en sachant évidemment, ce qui va se passer ensuite, c'est particulièrement émouvant.
Chrysilla ?
Oui, et je rejoins tout à fait Thibault. Et en ce moment, je passais devant Notre-Dame tout à l'heure, c'est extraordinairement émouvant aussi, tu parlais de la gangue, de voir peu à peu la structure de Notre-Dame qui sort en effet de la nouvelle gangue de restauration, enfin de reconstruction même, et de voir la flèche qui maintenant est sortie complètement de la gangue. Et c'est d'une beauté.
Et regardez donc ce documentaire consacré donc au chantier de Notre-Dame de Michel Izard sur l'appli TF1+. Alors Chrysilla, votre petit plaisir de la semaine.
Eh oui, alors je suis désolée Nicolas, c'est une concurrence mais tout à fait loyale, c'est la concurrence de Marie Richeux, son émission sur France Culture, Book Club, dans lequel elle traite de beaucoup de choses, de littérature, mais elle a un signal récurrent qui est celui justement de la visite de la bibliothèque d'un certain nombre de personnalités. Alors en général, ce sont des auteurs eux-mêmes, mais pas toujours. Ça peut être des acteurs, des chanteurs, des danseurs. Et c'est un plaisir extraordinaire. Moi, j'adore ça, j'adore écouter cette découverte. Nicolas parlait tout à l'heure de l'intimité des bibliothèques. C'est exactement ce qui se dévoile dans cette émission. Alors, pour vous donner une idée des gens qu'elle a interviewés, de manière complètement éclectique, eh bien, on a aussi bien Barbara Cassin, la philosophe, alors là, qui parle, qui a des livres de philosophie grecque, etc., ou Camélia Jordana. Donc, c'est vraiment le grand écart. Et voilà. Donc maintenant, Nicolas, mea culpa, j'écouterai davantage ton émission.
Le Book Club de Marie Richeux à réécouter sur l'appli Radio France. Et on peut par exemple écouter l'hommage à l'écrivaine, à la grande écrivaine Maryse Condé. Guillemette, votre petit plaisir, eh bien, c'est le succès en salle du film de Christine Angot, Une famille.
Oui, alors, succès. On n'est pas sur un blockbuster, hein, vous vous rendez bien compte. Mais ça marche tranquillement vers les 80 000 entrées en salle, ce qui, pour un film pareil, est vraiment une belle prouesse. C'est un film magnifique, on va pas le redire. Tout le monde a été à genoux devant cette manière incroyable d'interroger le déni à partir de sa propre histoire d'inceste. C'est un documentaire, une fois que vous l'avez vu, il y a certaines images ou certains, justement, commentaires des proches de Christine Angot que vous n'oublierez plus jamais. Vous saurez ce que c'est que le silence autour des victimes. C'est un truc de fou. Et je trouve que c'est bien d'aller le voir, parce qu'à l'intérieur, hein, il y a un extrait d'une émission d'un animateur télé.
Ah oui, c'est terrible. Terrible.
Terrible. Donc, où en fait, on rigole sur l'inceste. Une humiliation publique. On rigole sur Christine Angot, on rigole sur l'inceste. Animateur télé qui a aussi rigolé quand Judith Godrèche racontait ses histoires, qui a aussi rigolé à plein de récits de femmes qui avaient eu des drames ou des soucis dans ses émissions. Et donc, un animateur télé qui va avoir la Légion d'honneur. Et moi, je pense que c'est plutôt une légion de femmes qui trouvent que cet honneur n'est pas mérité.
Christina. Et là, je rejoins Guillemette, mais alors absolument à 100%. Et pourtant, je tiens à le dire, je ne suis pas du tout, au contraire, une fan de Christine Angot. Donc, ça n'a rien à voir. La manière dont cette émission s'est déroulée est absolument, mais répugnante. Et ce qui est encore plus répugnant, c'est pas seulement les propos de cet animateur, c'est la complicité, rieuse, ricaneuse de tous les gens qui étaient autour, y compris une jeune femme. Alors, je me suis vraiment posé la question de savoir pourquoi elle était rentrée dans le truc, et à mon avis, c'est la peur, en étant la seule femme, de se démarquer de ce qui était l'idéologie dominante dans cette émission.
Tout le monde n'est pas Denise Bombardier.
Voilà.
Perla, je garde votre petit plaisir pour tout à l'heure, parce qu'il est en lien direct avec notre sujet du jour. Allez, place à l'ami du vendredi de Guillemette Audicino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger. Et
évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette, je suis ravie de découvrir cet ami que je ne connaissais absolument pas.
Oui, alors chère Ali, nous parlons ici de l'art et de la manière de ranger sa bibliothèque, et j'aurais pu célébrer quelques grands bibliophiles comme Gabriel Naudet, auteur de en 1627. D'advis pour dresser une bibliothèque, qui est le premier traité de la bibliothécomie, et qui évidemment en plus rassembla toute la collection personnelle de livres du cardinal Mazarin, et donc qui est à l'origine de la bibliothèque mazarine que tout le monde connaît. Mais non, Parce que, en fait, pour moi, le rangement, c'est vraiment un problème, en fait. Ça, moi et le rangement, ça fait deux. J'ai même un problème avec le choix. Enfin, donc, je voudrais plutôt vous présenter un grand malade. Un grand malade de mes amis, un bibliomane. Antoine-Marie-Henri Boulard, né le 5 septembre 1754 à Paris, qui fut traducteur, notaire, député et maire de ce qu'était à l'époque le 10e arrondissement. Mais personne n'a retenu aucune de ces activités-là. Si M. Boulard est resté un temps soit peu dans les annales, c'est pour sa passion dévorante pour les livres. Du moment qu'un truc était imprimé, il aimait ça, il l'achetait, il le gardait. À sa mort, sa bibliothèque comptait près de 600 000 livres.
Mais comment en avait-il amassé autant, Guimette ?
Il entassait. Un peu comme moi, à côté de mon lit, mais en beaucoup plus grand, voyez. Il entendait dire qu'une bibliothèque allait être jetée, il accourait, il prenait tout. Sa pathologie fut même expliquée par un médecin, le bon docteur Décuré, en 1841, sous le titre « Le cas du docteur, du notaire Boulard ». Où on peut lire « Le bibliophile apprécie le livre ». Le bibliomane, lui, le pèse, le mesure. Il ne choisit pas, il achète. Le bibliophile possède des livres. Le bibliomane est possédé par les livres. Et on en apprend plus sur Boulard, donc. Alors, homme de goût, instruit, il avait acquis une grande fortune dans le notariat. Et dès qu'il céda son étude à son fils au moment de sa retraite, il put se laisser aller à sa manie. Passant ses journées chez les libraires et les bouquinistes, qu'il pleuve ou qu'il gèle. Et, au bout de quelques années, les bouquinistes le considéraient même comme une véritable providence pour leur commerce. À ce rythme, son appartement fut bientôt rempli. Fallait faire de la place. Et Madame Boulard, son épouse, lui conseilla simplement de lire avant d'acheter. Non, elle avait rien compris. Ce qui comptait, c'était l'objet, ce truc fascinant en papier. Et Monsieur Boulard n'écoutait plus personne de toute manière. Il sortait très tôt le matin, revenait très tard le soir. Un jour même, il découcha. Son épouse s'inquiète, le suit et découvre qu'il a acheté une maison entière pour la transformer en bibliothèque. « Arrête chérie, promets-moi d'arrêter. T'es malade, j'ai peur. » Antoine jure. Mais aussi sec, il tombe en dépression, il attrape la fièvre. Alors le médecin de la famille trouve un remède. Il appelle un brocanteur qui vient étaler dans la rue quelques centaines de volumes devant la fenêtre du bibliomane et se met à vendre ses livres à la criée. Attiré par ce bruit divin, M. Boulard est autorisé à descendre en pyjama dans la rue. Le voilà un genou à terre en train de renifler et palper les livres. Il y en a tant, mais lequel choisir ? Il repart avec la totalité du stand. Et le lendemain matin, il se sent beaucoup mieux. Alors en fait, c'est grâce à ce traitement, cette autorisation accordée régulièrement, que M. Boulard put vieillir en paix. À 75 ans, on le voyait encore sur les quais, enveloppé d'une immense redingote bleue avec 10 livres dans chaque poche. Pour finir, je voulais juste vous dire que mon ami n'était pas égoïste pour autant. Il aimait partager ses livres. Alors, seul petit problème, ne sachant jamais, évidemment, où était rangé le livre qu'on lui demandait dans ses multiples bibliothèques, il allait en acheter un nouvel exemplaire pour pouvoir le prêter.
Hubert Prolongeau, vous vous sentez en affinité avec ce notaire bibliomane ?
Je viens même de découvrir un sens à une fin de vie qui s'approche. Je vais pouvoir essayer d'égaler Monsieur Boulard.
Allez, tous les épisodes de L'Ami du Vendredi de Guimette Audicino sont à podcaster sur l'appli Radio France. Perla ?
Comment vous l'avez rencontré, ce Monsieur Boulard ?
C'est une longue histoire.
Perla. J'ai entendu parler de lui, je me suis penchée sur sa vie.
Tous les épisodes donc de L'Ami du Vendredi sont à podcaster sur l'appli Radio France. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Joachim Taïeb et Matteo Scognamillo, avec l'aide de Charles Thierry. La réalisation a été signée Claire Destacan, la programmation musicale Valentine Chedebois. Merci à la documentation, à la bibliothèque de Radio France, ainsi qu'aux standardistes et aux techniciens qui se sont succédés toute la semaine. Dans un instant, comment ranger sa bibliothèque ? Ce sera juste après avoir écouté les Beatles, Get Back, une chanson sortie en 1970, 10h31 sur France Inter. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo lived his home in Tucson, Arizona, awesome California grass. Get back to where les Beatles, Get Back.
Mais qu'est-ce que vous allez en foutre des bouquins sur le Pays de Galles? Un exposé?
Grand bien vous fasse.
Allez, il n'y en a pas pour longtemps. Il faut me trouver un bouquin sur les règles des jeux de cartes du Pays de Galles. Vous croyez que vous avez ça?
À lire EBI.
Les règles des jeux de cartes du Pays de Galles? Mais ça va me prendre au moins une semaine à trouver ça dans tout ce patras.
Eh ben justement, commencez tout de suite, sinon vous allez encore râler.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, loisir, plaisir, curiosité. Comment ranger sa bibliothèque? C'est notre thème ce matin avec les journalistes et écrivains Nicolas Carreau et Hubert Prolongeau et avec le libraire Antoine Bonnet de la librairie Michel à Fontainebleau. Nicolas Carreau, comment vous la rangez-vous, votre bibliothèque? Parce que vous avez interrogé des tas de personnalités pour votre livre. Et vous, vous les rangez comment, vos livres? Mais vous, comment vous faites?
Il y a un classement initial, mais c'est une bibliothèque vivante. Moi, j'en ajoute beaucoup, j'en sors beaucoup. Mais au départ, il y a une bibliothèque de littérature française. Celle-là, elle est classée par ordre alphabétique. Il y a les Américains, les Britanniques. Il y a une partie autre
beaucoup
pays.
Beaucoup d'Américains et de Britanniques.
Ouais. Hein? Polar, philosophie, histoire. Et j'ai même une petite bibliothèque ésotérique, j'aime bien. Et mais il n'y a pas de classement satisfaisant. Ouais. Et en fait, 90% des gens ne rangent pas leur bibliothèque. Ouais. Et Pérec, c'est un de ceux qui a, dans Pensée classée, son livre, c'est pour vous Guillemette, il a conceptualisé le rangement, notamment de la bibliothèque. Et il liste les manières, donc il y a par continent, pays, par couleur, par date d'acquisition du livre, par date de parution, par format, par langue, par priorité de lecture, par période littéraire. Et donc, il conclut en disant qu'il n'y a aucun classement possible. Ouais. Il y a un de ses amis qui a décidé de ne mettre plus que 361 livres dans sa bibliothèque. Le problème, c'est que 361 livres, mais est-ce qu'on peut mettre un livre avec plusieurs romans dedans? Est-ce que c'est un volume? Est-ce que c'est par auteur? Bon, il pose toutes ces questions dans Pensée classée, c'est assez génial.
Christine nous écrit « Ma bibliothèque est un bazar innommable, on n'y retrouve plus rien, et rien que l'idée de tout mettre par terre et trier me fait abdiquer, on en est à racheter un livre plutôt que d'essayer de le retrouver.
Bah » voilà.
Donc ça tombe bien Antoine Bonnet, qu'on rachète des livres parce qu'on ne sait plus où on les a mis. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un conseil en tant que libraire pour classer ce genre de bibliothèque un peu foutoir?
Après, comme je disais, voilà, je suis lecteur aussi avant d'être libraire et c'est vrai que le classement, c'est très compliqué. Si je me base sur mon métier de libraire, effectivement, on va classer par genre, par ordre alphabétique. Donc ça, c'est le classement, on va dire, basique. Après, si je prends ma bibliothèque, moi, personnelle, elle est classée par genre, mais elle est classée par maison d'édition. Elle peut être classée par collection également. Voilà, je peux avoir aussi un classement bien spécifique par rapport à mes BD, parce que j'aime beaucoup les BD. Voilà. Après, effectivement, comme le disait Nicolas, il y a pas de bon classement, quoi. Il y a le classement du lecteur à un moment donné. Et effectivement, voilà, on peut avoir aussi un classement par rapport à son humeur du moment.
Christine nous écrit ce joli message. J'aime tant les livres depuis que je sais lire que j'ai recréé chez moi une ambiance librairie. 35 bibliothèques du géant suédois, pleines à craquer d'ouvrages de toutes sortes. Sociologie, art appliqué, philosophie, BD, couture, cuisine, gastronomie, accompagnée de petits objets sculptures, pots remplis de crayons et de pinceaux, boîtes remplies de trésors. J'ai un besoin quasi physique. Leur présence rend les pièces inspirante et feutrée, et conjuguée avec tapis et plantes, c'est un environnement stimulant et rassurant à la fois. Christine, j'ai très envie de venir chez vous.
Et vous, Ali?
Moi, je classe ma bibliothèque au fur et à mesure. J'aime bien l'éclectisme quand il y a un ouvrage de sociologie qui côtoie un ouvrage de poésie, un ouvrage d'art. Pour la cuisine, il y a une bibliothèque spéciale, une bibliothèque gastronomique. Mais j'aime bien, au fur et à mesure des achats, j'aime bien cet éclectisme-là. Guillemette.
Non, je voulais juste quand même rendre hommage aux appendices de la bibliothèque, parce que vous êtes mignons, vous, avec vos bibliothèques, mais on ne parle pas des pilasses à côté du lit.
Oui, c'est vrai.
On ne parle pas des chaises qui sont devenues des bibliothèques, on ne parle pas des tables de chevet sur lesquelles on ne peut même plus mettre un verre d'eau.
Rien. Des escaliers qui deviennent des bibliothèques.
Oui, des trucs sous les escaliers. Enfin,
sur les marches.
Le problème aussi, c'est que la bibliothèque, c'est très vivant, mais au sens où ça s'étale comme ça. C'est comme du lierre. Et quand on parle des livres qu'on rachète, je ne sais pas si vous avez le cas, chers auditeurs, mais moi, j'ai des enfants qui adorent certains livres de ma bibliothèque, mais comme ils aimeraient bien avoir le propre exemplaire, ils en rachètent un autre. Donc, vous voyez, c'est aussi ce genre de truc dont il faut aborder.
Antoine Bonnet.
C'est compliqué.
Oui, donc là, on parle effectivement là de place pour le coup pour ranger ses livres. Et c'est vrai que à la librairie, c'est souvent ce qu'on entend en disant ah là, mais j'adore lire, j'adore acheter des livres, mais maintenant bah voilà, il faut que je pousse les murs, il faut que je rachète une maison. Donc c'est un vrai enjeu en fait de créer sa bibliothèque quoi. C'est complètement Monsieur Boulard.
Oui, c'est le syndrome Boulard, je sens tout ça.
Perlassalon Schreiber, votre petit plaisir quand vous arpentez votre bibliothèque, c'est vous cherchez un livre et vous en choisissez un autre au hasard.
Ben oui, parce que j'ai une bibliothèque. Alors, je suis admirative de tout ce que j'entends comme rangement et dérangement, qui me rassure, parce que ma bibliothèque est totalement dérangée. Alors voilà, j'ai une bibliothèque dérangée. D'ailleurs, j'en ai trois, à part la gastronomique, comme vous, Ali, et je ne retrouve rien. Donc, soyons clairs, je ne retrouve pas grand-chose, et évidemment, je vais acheter. Mais je trouve toujours quelque chose qui, tout d'un coup, mon regard me fait palpiter le cœur. Je prends ce livre, j'ai un canapé juste à côté, et là, il se passe un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais plus. J'ai relu 44 pages et je suis folle de bonheur. Et j'ai oublié ce que je suis venue chercher.
Et dans la lignée de ce que vous dites, je cite Umberto Eco, la fonction essentielle d'une bibliothèque est de favoriser la découverte de livres dont le lecteur ne soupçonnait pas l'existence et qui s'avèrent d'une importance capitale pour lui.
Ah oui.
Tiens,
ah oui.
Je vous propose d'écouter une note vocale que Marie nous a laissée.
J'ai longtemps eu une bibliothèque dans un salon visible de tous et je rangeais alors les livres par couleur de pochette, de couverture. Il y avait les noirs, les blancs, les dorés, c'était très joli à l'œil. Et puis ma bibliothèque est passée dans ma chambre, et alors je l'ai rangée à partir de là, par ordre chronologique de lecture et de découverte, bien plus facile ensuite à retrouver quand on cherche une référence.
Christilla, alors, vous avez choisi cette semaine de nous parler d'un ouvrage d'Alberto Manguel qui tombe à pic ce matin.
Alberto Manguel, qui est, il se définit lui-même comme un lecteur avant toute chose, mais pourtant, évidemment, il n'est pas que ça. C'est un honnête homme, c'est un universaliste, c'est un pendant d'Umberto Eco que vous citiez. Il a été secrétaire de Borges, qui n'est pas rien quand même, lecteur et secrétaire de Borges, directeur de la Bibliothèque nationale d'Argentine, et maintenant il vit au Portugal, après avoir vécu en France. Alors ce livre, Je remballe ma bibliothèque, qui est un hommage à Walter Benjamin qui avait écrit... qui avait écrit Je déballe ma bibliothèque. Là, Alberto Manguel remballe sa bibliothèque pour une raison administrative horrible. Il vivait en France, dans la vallée de la Loire, avec son compagnon. Et puis, des problèmes administratifs ont fait qu'ils ont été obligés de vendre la maison et de repartir à l'étranger. Problème, 33 000 ouvrages dans sa bibliothèque en France. Il a fallu donc remballer les livres après les avoir déballés. Et toute la question de Umberto Eco, vous voyez.
Heureux lapsus.
Oui, très beau lapsus. C'est de se poser la question d'abord de savoir qu'en faire. Et évidemment, au fur et à mesure qu'il remballe, tous les livres sur lesquels il retombe évoquent des choses. Alors, soit des périodes de son existence, soit évidemment l'auteur lui-même. Et de fil en aiguille, par une espèce d'excroissance, d'une arborescence, il aborde à peu près tout l'ensemble de la littérature mondiale. Car j'ai oublié de préciser que Manguel parle et écrit quand même 6 langues. Tout à fait couramment, dont le français. Voilà. Et ce livre, c'est une merveille. Je crois que c'est vraiment un de mes livres au monde préférés. Parce que c'est une réflexion tellement profonde sur la lecture, sur les livres et sur l'histoire des bibliothèques. Pas seulement les bibliothèques privées, mais les bibliothèques nationales ou municipales. Que vraiment, je pense que c'est absolument indispensable à tous les lecteurs de se plonger dans ce livre qui vous donnera envie, évidemment, de vous précipiter soit dans une librairie, soit dans une bibliothèque, soit dans la vôtre.
Rappelez le titre.
Alors, je remballe ma bibliothèque, une élégie et quelques digressions. Les digressions entre chaque chapitre sont des bijoux. C'est chez Actes Sud, Alberto Manguel, et c'est, voilà,
et
obligatoire.
On accueille autour de la table notre jeune collaborateur et grand lecteur, Matteo Scognamiglio. Bonjour, bonjour Matteo. Vous l'arrangez comment, vous, votre bibliothèque?
Alors, je crains que ça ne soit rien de très original, mais je tenais à préciser quand même que je suis très heureux de cette émission quand je vois l'état de ma chambre, où les livres commencent à s'empiler sur le bureau, puis par terre. Et je ne parlerai pas, Adi, du bureau de Grand-Mère Bouffasse.
On a rangé hier.
On a rangé hier, exprès, pour pas que je fasse ma blague.
Voilà, exactement.
Mais non, comme beaucoup, en fait, ça a commencé par la volonté d'avoir une bibliothèque très bien organisée, très bien rangée, donc par genre, globalement, un peu comme vous, Nicolas, mais je suis pas aussi consciencieux, malheureusement. Littérature générale, étrangère, philosophie, etc. Et au sein de ces sections-là, je regroupe les auteurs ensemble, et idéalement des collections, mais bon, quand un auteur publie dans différentes collections, chez différents éditeurs, je les regroupe quand même ensemble. C'est beaucoup plus simple pour les retrouver. Jusqu'au jour où arrive un petit peu le livre de trop. Vous savez, à la manière du verre de trop, c'est ce livre où on sait que c'est fichu. Et on commence ensuite à faire deux rangées sur la bibliothèque. Oui, donc on voit plus celle de derrière. On commence à les empiler du mauvais côté, on voit plus les tranches. Et là, bon courage à quiconque qui n'est pas dans notre cerveau pour retrouver les livres. Donc voilà à peu près pour l'organisation de la bibliothèque.
Merci beaucoup Matteo.
Donc je vois que la lecture électronique n'a atterri chez personne d'entre nous.
Pas dans cette émission. Hubert Prolongeau, trois livres à sauver de votre bibliothèque. Hein, imaginons un péril que je ne souhaite absolument pas, mon cher Hubert.
Moi non plus. Mais c'est marrant parce que l'exercice, d'habitude, c'est avec l'île déserte. Ouais. Donc ça suppose que c'est des livres que pendant 30 ans, on va pouvoir lire en permanence. Et chacun cherche des textes brillants et tout. Et là, quand vous dites sauver, moi j'ai envie de sauver des livres, des objets, parce qu'une bibliothèque, c'est aussi une suite d'objets. Et c'est ça qui compte. Et des livres qui ont compté. Donc il y en a un, le premier, pour plusieurs raisons, c'est un Jules Verne dans la collection Hetzel, dans lequel il y a deux romans, Face au drapeau et Clovis d'Ardentor. Et les raisons, c'est que d'abord, Jules Verne a été le premier auteur que j'ai adoré. J'ai découvert ça, je sais pas, j'avais 12 ans. Et jusqu'à épuisement de ce qui était publié à l'époque, je n'ai rien voulu lire d'autre. Ce livre m'a été offert par mon père, donc il est mort il y a une dizaine d'années, donc c'est toujours un souvenir. Et en plus, sur la page de garde du deuxième roman, ce qui fait que le libraire ne l'avait peut-être pas vu, il y a une dédicace de Jules Verne lui-même.
Vous le gardez précieusement. Le deuxième, je crois que c'est un livre de William Styron.
Voilà, Le choix de Sophie, mais là aussi, pour des raisons très personnelles, c'est le premier livre que m'a offert quelqu'un qui compte beaucoup, toujours et depuis 40 ans, et avec une dédicace que peu de gens ont lu, mais qui me touche beaucoup. Donc celui-là, je l'emmène aussi. Et le troisième, au risque de paraître totalement narcissique, c'est le premier exemplaire que j'ai reçu du premier livre que j'ai écrit.
Parce que
voir son nom écrit sur une couverture de livre, quand on est lecteur, c'est quand même une émotion rare et qui, même longtemps après, ne s'éteint pas.
Et on peut le citer.
J'emmène ces trois-là.
On peut le citer.
C'est très contradictoire avec la notion de rangement, puisque comme ils sont évidemment, avec mon optique de maniaque, tous dans des lieux différents, il faudrait quand même que la catastrophe qui m'obligera à les sauver soit particulièrement complaisante pour que je puisse aller de l'un à l'autre et de les emmener tous.
Et votre livre, votre tout premier, c'est La vie quotidienne en Colombie au temps du cartel de Medellín, chez Hachette.
Ali, cette connaissance de ma bibliographie me va droit au cœur.
Nicolas Caro, trois livres.
Oui. Alors, mais moi, j'ai pris double Douglas Adams, Le guide du voyageur galactique. C'est un livre, mais c'est le premier tome, il y en a cinq.
En poche. Hein.
C'est hyper culte, c'est très britannique, c'est un humour anglais incroyable, c'est l'histoire d'Arthur Dent. C'est la fin du monde, la Terre va exploser parce qu'il va y avoir une route intergalactique qui va passer à cet endroit-là. Heureusement, son meilleur ami lui avoue qu'il est lui-même un extraterrestre, un journaliste qui travaille pour Le guide du voyageur galactique et qui se balade partout. Et donc, il l'emmène avec lui dans
le guide du voyageur galactique de Douglas Adams.
Ensuite... Richard Brautigan, tout a été retraduit par le Castor Astral, tous ces poèmes, c'est tout ce que j'ai à déclarer, c'est le titre du recueil, il y a 900 pages,
oh là là.
C'est génial, un côté anglais, l'autre côté en français, donc ça c'est super aussi, et puis j'ai pris Françoise Sagan, j'ai pris Bonjour Tristesse, mais pas forcément celui-là, mais je trouve que les écrivains qu'on aime, ce sont aussi des amis, et les avoir dans sa bibliothèque, les voir de temps en temps, c'est chouette, et j'ai une tendresse infinie pour Françoise Sagan, donc voilà.
Antoine Bonnet, on n'a plus trop le temps, mais un livre à sauver de votre bibliothèque?
Je prendrais L'ami retrouvé de Fred Ullmann, donc qui est chez Folio. Il a pour moi une façon toute particulière parce que ça a été un livre qui m'a été offert par ma prof de français en quatrième, et c'est un texte que voilà je garde toujours avec moi. Je l'ai toujours dans cette édition Folio. C'est mon texte phare. Quoi.
L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Moi, ce sera l'édition sur papier Bible des contes et nouvelles de Maupassant. C'était publié en 1973 chez Albin Michel. Et j'avais découvert ça à la bibliothèque municipale de Rangueil à Toulouse. Et je l'ai racheté des années après. C'est une jouissance de lecture d'adolescence qui reste intacte 35 ans après. Si vous arrivez à vous le retrouver, c'est l'intégrale des contes et nouvelles de Maupassant chez Albin Michel. Guillemette.
On peut juste dire les titres, bah, même si on ne dit pas pourquoi.
Bien sûr.
Bon, Le Monde d'hier de Stéphane Zweig. D'hier de Stéphane Zweig. Voilà.
Priscilla.
Et Mrs. Dalloway de Virginia Woolf.
Priscilla.
L'œuvre complète de Nicolas Bouvier chez Bouquin.
Ah, Thibaut.
Les Essais de montagne, parce que j'ai jamais vraiment fini de le lire.
Avec, même commencé, vous avez la parole, gardez-la. Il est temps de philosopher avec vous, Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'un télo, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Personne. Jamais.
Mon cher Thibault, vous prolongez notre conversation ce matin sur le rangement de nos bibliothèques en vous demandant que faire de ce qui est inclassable.
Mais oui Ali, parce que dans une bibliothèque comme dans la vie, il y a de l'inclassable. Vous savez ce livre de recettes de cuisine tiré du cinéma de Chabrol? On le range où? Alors avec les livres de cuisine ou avec les livres sur le cinéma? Donc comment on le range? Comment on classe? À moins que l'inclassable ne soit qu'un inclassable relatif et qu'il faille inventer plus de classes. Par exemple, une catégorie de livres de cuisine et cinéma. Mais on ne peut pas multiplier les catégories parce qu'à la fin, il y aura autant de catégories ou de classes que de choses et il n'y aura donc plus de classement du tout. L'inclassable nous pose problème car nous passons notre vie à classer. Nous classons des idées, des connaissances, des gens, des situations, des sentiments, des liens. Nous manipulons des catégories, des cases, nous distinguons, nous rangeons, nous trions, nous filtrons, au point, comme le remarque Pérec, cité tout à l'heure par Nicolas, que nous ne savons plus si nous classons pour penser ou si nous pensons pour classer. Nous avons besoin de classification pour connaître les plantes, par exemple, les animaux, les molécules, les atomes, et nous avons besoin de classer pour agir, pour savoir quoi faire. Et comme le monde nous semble être à peu près ordonné, nos classements nous semblent à peu près naturels.
Dans mon souvenir, le livre de cuisine sur le cinéma de Chabrol était signé Laurent Bourdon, il me semble. Alors comment comprendre qu'il y ait de l'inclassable, Thibault?
Eh ben, c'est tout le problème. Y a-t-il de l'inclassable parce que nous ne sommes pas encore arrivés à le classer? Ou bien y a-t-il de l'inclassable parce que telle ou telle chose ne peut pas être classée du tout, en soi? Absolument. On pourrait alors toujours faire une catégorie d'inclassables. On a tout ça dans sa bibliothèque. Un ensemble de livres tous inclassables, mais que l'on met à côté les uns les autres. Mais on voit bien là encore, théoriquement, la limite. Si l'inclassable devient une catégorie rassemblant des objets ou des livres qui ont comme point commun de n'avoir rien en commun, ça n'a plus vraiment de sens. Et là encore, il n'y a plus de classement du tout. L'inclassable dérange la logique de notre raison. Il dérange notre connaissance du monde. Il transgresse l'ordre social. Depuis toujours, les personnes qui ne se soumettent pas aux classements sociaux de genre, de capacité, de comportement, de croyances ou de valeurs sont marginalisées et discriminées. Pourquoi donc, question, avons-nous tant de mal à appréhender l'inclassable? Pourquoi avons-nous tellement besoin de classement? L'ami Nietzsche, philosophe inclassable s'il en est, fait de cette question l'un des centres de gravité de sa pensée. Pour Nietzsche, la tendance à vouloir réduire l'inconnu au connu, le besoin de catégories, de classes sociales et de tout ce qui permet de mettre de l'ordre dans le réel, est le signe d'une faiblesse de la vie et de la volonté. Le monde et la vie ne sont qu'une succession de choses, d'êtres, de sensations et de désirs de toute façon inclassables. Mais vivre dans un tel désordre de singularité demande une force d'attention et d'adaptation immense. Il faut être capable de supporter la différence et les nuances de chaque chose, de chaque être, à chaque moment de la vie. Et c'est précisément parce que ça demande une force démesurée que par faiblesse, nous préférons classer, identifier, mettre ensemble tout ce qui vaguement se ressemble. Les livres, par exemple, donc, en les classant par couleur, par format, par éditeur, par thème, alors que l'on sait bien, au fond, que chaque livre est différent. Alors, si vous voulez, continuons de classer nos livres. C'est pas si grave, surtout si ça permet de trouver ou de retrouver plus vite tous ces livres qui nous apprennent qu'il y a de l'inclassable en nous et dans le monde.
Nicolas Caro.
Non, la vie elle-même bouleverse les classements, forcément. Tout à l'heure, je suis arrivé à l'accueil de Radio France, c'était Chimène qui m'a accueilli et qui avait vu mon nom et qui me dit « Ah, vous voilà, il faut que je vous parle de mon classement de bibliothèque parce que moi j'ai eu une séparation et donc maintenant je veux que je refasse tout. Puis alors j'ai une formation d'historienne de l'art et donc j'ai mes beaux livres, etc. » Et j'en savais énormément sur sa vie et sur sa manière de classer à cause de la vie.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster, à partager sur l'appli France Inter dans un instant. Ah là là, la recette à partager ce week-end de Perlas à Vranches-Reybert, des malfaldines au citron, j'arrive pas à le dire, roquettes et tomates cerises, j'en bave. Ce sera juste après avoir écouté Voyou et Vanessa Paradis qui interprètent le bal.
Sans issue de secours, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ceux qui s'effacent et ceux qui resteront toujours.
Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, 100 000 âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance. En quelques pas de danse, c'est vrai, j'ai flanché, genoux au sol. On a dansé sous les valses folles.
Dans cette salle sans issue de secours,
brillant le bal me rappelle à mes amours.
Premier fil se confondra d'autres contours.
Qu'un coup de cil m'a fait perdre pour toujours.
C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts une première cavalière, une deuxième et puis trois.
Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée où tourbillonne autant de beauté.
J'y perdrai.
Voyou et Vanessa Paradis interprétaient le bal. Perlas à Vranches-Reybert, une recette à partager ce week-end, des mafaldines au citron, roquette et tomates cerises. Oui. C'est quoi les mafaldines ?
Les mafaldines, c'est des pâtes plates, assez larges, à peu près 1 cm et dentelées. Alors elles sont très jolies, on ne les trouve pas très facilement, alors on peut utiliser des penne pour faire la même recette sans aucun problème, mais c'est moins joli.
Alors les ingrédients ?
Alors les ingrédients, eh ben, il faut pour 5-6 personnes, il faut 400 g de pâtes. On compte 100 g pour des bons mangeurs. Et pour 100 g de pâtes, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est ça. Pour 100 g de pâtes, il faut 1 litre d'eau et 1 cuillerée à soupe de sel. Et si vous trouvez que vos pâtes sont moins bonnes que dans un restaurant italien, c'est parce que vous ne faites pas ça.
On a bien retenu la leçon. Ensuite...
On a de la roquette,
250
on a 250 grammes, on a 1 kg de tomates cerises, il faut être assez généreux, 2 gousses d'ail, 2 citrons jaunes parce qu'on va les presser, la sauce est au citron, 75 grammes de noisettes facultatives, 8 cuillerées à soupe d'huile. Hein.
Quand même, ouais.
Ah oui, soyez généreux, il n'y a pas de beurre dans ce truc, hein, c'est que de l'huile
et
d'olive. Et 2 cuillerées à soupe de moutarde de Dijon et du sel et du bon poivre. S'il vous plaît, c'est très important. Alors, vous portez à ébullition votre eau, et pendant que l'eau, puisqu'elle a quand même 4 litres, va bouillir, hop, on lave et on coupe les tomates cerises en deux, on presse les citrons, on concasse les noisettes, et on lave et on sèche la roquette. Voilà, vous pelez les gousses d'ail, vous les écrasez, et là, vous avez tout devant vous. Parfait. L'eau bout, on jette les pâtes dedans. En général, le temps indiqué sur le paquet est parfait, suivez-le. Et ensuite, on les égoutte dans une passoire extrêmement rapidement. Deuxième chose à ne pas oublier, il faut qu'il reste un petit peu d'eau dans le feu. Ouais. Et hop, on les remet dans la marmite qui est vide. Donc maintenant, je vous rappelle, la même, d'accord ? On les remet dedans, on met de l'huile d'olive et là, on met, on fait revenir dans une poêle les tomates cerises avec l'ail, mais vraiment une minute dans de l'huile d'olive, on les met par-dessus les pâtes et on va maintenant mettre la roquette hors du feu et la moutarde avec le jus de citron, vous les avez mélangés, c'est la sauce qui va parfumer vos pâtes, vous mélangez et c'est fini. Vous allez à table.
Et merci. Il n'en restera pas le lendemain, évidemment.
Ah non, ça, c'est pas la peine. Ne comptez pas dessus, il n'y en aura plus.
Merci, Perla Saint-Vincent-Schreiber. Cette recette est à retrouver sur votre newsletter Good dimanche. Morning Perla. C'est le dimanche et vous pouvez vous inscrire sur cette newsletter Good Morning Perla, qui est vraiment bien faite sur un moteur de recherche. Vous vous inscrivez. Voilà. Merci aux amis du vendredi. Guillemette, Perla, Thibault, Christina. Oui, Christina, qu'est-ce qu'il y a encore?
J'ai oublié la traductrice de Mangel, c'est pas bien du tout. Christine Leboeuf.
C'est fait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Caro,
merci
d'être venu. Et vous, vous l'arrangez comment, votre bibliothèque? C'est publié à la librairie Vuibert. Merci, Hubert Prolongeau. Le dernier chasseur, comme un Français s'est réinventé au Groenland, et publié chez Albin Michel. Merci, Antoine Bonnet. On peut venir vous voir à la librairie Michel à Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, dans Grand Bien Vous Fasse, avec l'émission Enquête de santé de 35. Que penser des naturopathes? Faut-il leur faire confiance? Comment distinguer les bons professionnels des charlatans?